Depuis Port-au-Prince, Haïti, vous écoutez Magic 9. Magic 9 sur le 100.9 FM.
Écoutez Magic 9, n'importe côté où il y a 24 sur 24 avec Audio Now sous 641 552 5209. Ma preuve, 641 552 5209. 24 sur 24, Magic 9 à 20. Et puis tout, allez download l'application
Magic 9
sur smartphone, sur Google Play, avec sur App Store, Apple là pour capter la radio, quel que soit côté où il y a, et puis tenez émission ou pire et avec Audio Now.
Maintenant.
Le nouveau son.
Magic 9.
Magic 9.
Vous aimez le livre et la lecture? Vous êtes branché littérature? L'Aigle Édition met à votre disposition un éventail de livres de tout genre pour vous aider à affiner votre goût littéraire. Poésie, romans, nouvelles, essais. Les livres de L'Aigle Édition sont disponibles aux deux librairies La Pléiade, à Bois-Patate et à Pétionville, à Festival Arts et en son local au numéro 26 à Delma 8. L'Aigle Édition, littérature, culture, patrimoine.
Dans l'introduction de Lire est le propre de l'homme, Jean Delas et Jean-Louis Fabre écrivent ceci. Connaissez-vous deux verbes plus proches que lire et écrire? Connaissez-vous deux mots plus proches que lecteur et électeur? C'est souvent en ces temps d'effervescence politique que l'on comprend le mieux le lien vital qui existe entre lecteur, éducation, liberté et donc démocratie. Il faut lire en même temps, il faut lire même en temps de guerre, de crise ou d'élection, qu'elle soit frauduleuse ou non, car lire sert à tout, nous dit Christian Auster, qui croit que toute politique doit commencer par une politique de la lecture. Entendons-nous par là une vraie politique de lecture et non comme ces politiques au rabais qu'ont tenté de nous proposer nos amis et nos amis directeurs du livre et consorts, cherchant partout la bonne grâce de la petite clique d'écrivains qui regardent le monde qu'à travers leurs lunettes arrière, qui malheureusement ne renvoyant que leurs propres images. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de livres en lieu et place de discours fades et mensongers pour apprendre à découvrir le monde, de livres pour que nous apprenions à mieux choisir nos dirigeants, de livres pour apprendre à devenir plus humains, de livres pour bâtir des lendemains meilleurs, pour les générations futures. La vie n'aurait pas d'importance d'être vécue s'il n'y avait pas les mots, car c'est grâce à quoi l'homme peut, comme l'a souligné Montesquieu, dissiper ses moments d'ennui et de chagrin. C'est en 1925, dans son journal, Jules Renard écrit, et je le cite, « Quand je pense à tous les livres qu'il me reste encore à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux. À cette fin, la lecture serait le seul et vrai moyen de cultiver le bonheur. Autrement dit, ne peut être heureux que celui qui a le privilège de découvrir la vertu et la sagesse des mots. À quand enfin les hommes politiques et les dirigeants haïtiens comprendront la nécessité de faire du livre la pierre angulaire de leur politique de développement plutôt que de se battre à longueur de journée dans de vaines et stériles querelles pour la prise du pouvoir. Lisons pour donner sens à la vie, lisons pour inventer un nouvel avenir à Haïti. » Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à Livre Neuf sur Magic 9 ce dimanche 10 janvier 2016. C'est la deuxième sortie de cette émission pour cette année et aussi pour le mois de janvier. Nous sommes très contents de vous retrouver à la technique Willems Joseph, l'infatigable Willems Joseph. La présentation signée Jolemson Petit Frère, Myrline Pierre et Weber Charles, à qui je dis bonjour, bonsoir. Bonsoir à Weber Charles.
Bonsoir Jolemson et son petit frère, bonsoir Myrline Pierre, bonsoir à tous les auditeurs de Magic 9. C'est un plaisir de vous rejoindre en studio pour vous apporter le livre, surtout une émission spéciale où il va être question du livre. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'invité physique, mais nous avons choisi d'inviter les livres. Après 2 ans d'émission, nous pensons qu'il est bon aujourd'hui de laisser parler les livres et non plus les auteurs.
Tout à fait. Donc, c'est par le truchement et des livres, mesdames et messieurs, comme l'a signalé Weber Charles, que nous allons vous inviter à découvrir la littérature et non par la voix des auteurs, sinon que par la voix des narrateurs et que en fait qui nous apporte des récits ou encore la voix des poètes. Bonsoir Myrline Pierre.
Bonsoir Jolemson, son petit frère. Bonsoir Weber Charles. Bonsoir Willems et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Livre Neuf.
Voilà, et Livre Neuf, 2 ans déjà, et 2014, janvier 2014, janvier 2016, donc 2 ans que nous célébrons, et depuis l'existence de cette émission, alors tout le mois de janvier est consacré à célébrer cet événement, Livre Neuf. Livre Neuf a 2 ans depuis que nous sommes sur le cadran pour vous apporter le bonheur de lire et le bonheur de vivre. Donc, quelques petites infos et en ce qui a trait à Actu Livre pour cette semaine, eh bien, c'est le jeudi 14 janvier 2016, le Centre Pétion Bolivar est en partenariat avec l'Institut français d'Haïti, l'OIF, l'ambassade de Suisse en Haïti, la Focal, l'IFH est présente à l'hôtel Caribbean Convention Center. Ce sera à partir de 17h. Jacques Stéphane Alexis, Mort sans sépulture, un film d'Arnold Antonin autour de ce grand écrivain qu'a été Jacques Stéphane Alexis. Jacques Stéphane Alexis, né en 1922 et porté disparu en 1961, il est né le 21 avril et est disparu un 22 avril. Eh bien, autre information concernant le livre, une semaine consacrée au livre, au débat, aux causeries, à des conférences. Et c'est dans le cadre des 5 ans, donc des 5 ans du club Signet. Donc le club Signet a 5 ans, Signet, un club de la bibliothèque Araka qui se trouve au 230 de la rue de l'Enterrement, donc dans la zone du cimetière de Port-au-Prince. Eh bien, le club Signet organise avec la bibliothèque Araka une semaine d'activité intense autour du livre et de la lecture. Mais aussi autour de la figure de Regina Nicolas. Donc, c'est sous le thème « La lectrice assassinée ». Donc, il y aura plein d'activités. Donc, ils recevront du lundi 11 jusqu'au dimanche 17 janvier, pardon, jusqu'au 17 janvier, ils recevront des invités qui parleront de littérature, qui feront des conférences, qui animeront des conférences et qui parleront également de Regina Nicolas. Donc, demain, lundi 11, à partir de 16h, il y aura une conférence débat avec Ginette Chérubin, donc les élections en Haïti, ce sera à partir de 16h, et puis qui sera suivi d'une prestation de Patrick Fer, slammer, McDon, chanteur, et puis Billy et Lucien par de Regina Nicolas. Le mardi 12 janvier, eh bien, toujours cette fois-ci, ce sera à Café Philo, donc la littérature dans le sillage du séisme, intervenant Rudy Edmé, prestation de Jean d'Amérique. Le mercredi qui sera 13, et puis il y a Guy Régis Junior qui parlera de Regina Nicolas. Le mercredi, cette fois-ci, ce sera une conférence débat qui sera animée par Claude Carré à 16h. Le jeudi 14h, conférence débat sur la langue créole avec Samuel Jean-Baptiste. Et Jean Cajou parlera de Regina Nicolas. Le vendredi 15 janvier, à partir cette fois-ci de 12h, notre collègue Weber Charles parlera de Regina Nicolas, et puis il y aura des activités samedi, dimanche. Voilà, et pour la présentation de cette célébration du club Signet. À rappeler aussi que le 16 janvier, ce sera la fin de la réception, la date limite qui a été consacrée à la réception des textes pour le 7e numéro de la revue Legs et Littérature, qui sera qui est consacré à la thématique Les plumes francophones émergentes. Place à présent à Weber Charles pour la chronique.
Merci de l'aimer, son petit frère. Aujourd'hui, je vais vous parler de Port-au-Prince, de la représentation de Port-au-Prince dans les romans haïtiens. Port-au-Prince est un personnage assez récent dans le roman haïtien. Jusqu'avant la période contemporaine, le roman haïtien était soit un roman de campagne, indigénisme, soit un roman psychologique, Génération de la Ronde. Les quatre romanciers les plus connus de la Génération de la Ronde, Justin Lérisson, Fernand Hibert, Frédéric Marcelin et Antoine Innocent, ne se sont pas réellement intéressés à l'espace dans lequel évoluent les personnages, mais à la psychologie de ces derniers. Justin Lérisson s'est plu à nous peindre le prolétariat haïtien de ses deux l'audience, la famille des Petites Cailles et Zounche Sanenen, tandis que Frédéric Marcelin et Fernand Hibert nous ont décrit respectivement la classe moyenne et la classe bourgeoise de Port-au-Prince. Le personnage de Port-au-Prince n'est pas encore né, et ce n'est pas l'indigénisme qui va lui donner naissance. En effet, le roman indigène est par sa nature même un roman de campagne. De la trilogie de Jean-Baptiste Sénéas à Bondiéry d'Idriss Saint-Amand, en passant par Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain, le roman se déroule dans la plupart des cas en milieu rural. Il s'agissait pour ces écrivains de décrire la vie des paysans dans leur environnement réel. La tendance semble s'inverser quand on s'approche de l'époque contemporaine. Les personnages humains semblent devenir de moins en moins la préoccupation des auteurs. Port-au-Prince devient un protagoniste à part entière. Que ce soit chez Lionel Trouillot, Yannick Lins, Gary Victor, Louis-Philippe d'Alembert ou Émile Olivier, la capitale acquiert le statut de personnage romanesque, peint presque de la même manière chez ses écrivains dans un pessimisme noir. Si pour nommer un héros ou un anti-héros, le romancier a parfois recours à des noms qui traduisent le caractère de ce personnage, par exemple « Mambo et Joyeuse » dans « La maison du père et dans la couleur de l'aube » de Yannick Lins, « Calédu, Amour, colère, folie » de Marie-Vieux Chauvet, « Totot, ce pays qui m'habite » de Georges Anglade, il en est de même pour la ville de Port-au-Prince. Les romanciers ont utilisé des noms sombres pour nommer la capitale. Dans son roman « Compère général Soleil » paru aux éditions Gallimard en 1955, Jacques-Stéphane Alexis parle de « Port au crime » pour nommer la ville de Port-au-Prince. Le romancier Émile Olivier reprendra ce terme dans son roman « Mère solitude » paru en 2005. Mais c'est toute une pléiade de sobriquets qui sera utilisée par l'auteur, trou aux vices par exemple, trou aux assassins, trou aux crimes. Pour Georges Anglade, il s'agit plutôt de port aux morts. Louis-Philippe d'Alembert parle dans la plupart de ses récits de port aux crasses. Un dernier sobriquet, celui de Edgar Gousse sans doute le plus coquet, est port aux putes dans un roman paru en 2009 aux éditions Monde Global intitulé Le fils du président. Le linguiste Edgar Gousse brosse une image d'Haïti dans un réalisme merveilleux où les villes portent des noms très significatifs. Il existe une pluralité de façons pour les écrivains de nommer la ville de Port-au-Prince, mais toutes renvoient à une image négative de la capitale, les noms parlant d'eux-mêmes. Voilà pour une présentation de ma chronique aujourd'hui. Et je vous ai parlé de la représentation de Port-au-Prince dans la littérature haïtienne. Vous pouvez lire la version complète de cet article dans le quatrième numéro, c'est le cinquième, je suppose. Cinquième numéro de la revue Legs et littérature migration et littérature de la diaspora.
Merci.
Voilà, je reste avec vous,
Robert Charles, pour cette présentation de la chronique sur la représentation de Port-au-Prince dans les récits, hein, c'est ça, dans les récits haïtiens du XXe siècle. Donc, comment Port-au-Prince est-elle perçue, donc la ville, comme une putain et certaines fois. Elle est aussi perçue comme une pute.
Oui, comme la ville de toutes les ordures.
Voilà.
Un trou aux assassins, un trou aux vices.
Porte à l'écu.
Oui, bien sûr. Et puis.
Port aux crasses.
Port aux crasses, port aux putes, port aux morts. Qui fait, ce sont tous des noms, des petits noms que les romanciers. Et désigne, c'est par ces noms que les romanciers désignent la capitale d'Haïti dans leur roman, qui est une représentation assez proche de la réalité, puisque la situation n'a pas évolué aujourd'hui, et on a l'impression que notre Port-au-Prince reste toujours ce que les romanciers décrivent dans leur roman, un port aux crasses, ou un trou aux assassins, un trou aux vices. Et ce qui est paradoxal pour le nom, hein, Port-au-Prince, quand même, qui fait
port
que
au vice.
Et derrière Port-au-Prince se cache beaucoup de vices, hein, et d'ordures.
Tout à fait, de violence aussi. Myrline Pierre nous rejoint pour la chronique et la rubrique Le Livre de la Semaine.
Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très contente de vous retrouver pour la présentation de la rubrique Le Livre de la Semaine. Cette rubrique a 2 ans. et elle s'inscrit de jour en jour dans la durée. Ce soir, je vous présente je vous fais la proposition de lire cette semaine Sengesabo, Pierre de la patience du romancier afghan Atik Rahimi, prix Goncourt 2008. Sengesabo est un récit près de 138 pages. Ce livre a été publié en 2008 aux éditions Paul et réédité chez les éditions Gallimard en 2010 dans la collection Folio. Il a obtenu le prix Goncourt en 2008 et a été adapté au cinéma en février 2013 par l'auteur même. Ce livre traite surtout la situation difficile des femmes afghanes et aussi des terribles guerres sans fin dans les pays islamiques. Écrit dans un style facile à lire avec des phrases très courtes qui disent long. Sengesabo raconte l'histoire d'une femme qui implore la guérison de son homme blessé par une balle à la nuque lors d'une confrontation en période de guerre. Depuis deux semaines, l'homme reste au lit et il est en coma. Sa femme lui fait des infusions d'eau salée et sucrée et prie sans arrêt pour que son mari reste en vie. Dans sa prière, elle fait de son mari un Sengesabo, sa pierre de patience. Ce dernier, selon la culture perse, est une pierre noire qui encaisse les douleurs intimes et les pleurs des êtres humains et attend le grand jour pour s'éclater. Ce grand jour serait donc l'apocalypse. La femme a fait de l'homme sa pierre noire pour déverser ses humiliations de femme, ses cris de femme, ses douleurs et ses pleurs dans un long discours qui va peut-être réveiller son mari à la fin du roman. Sengesabo est un récit en prose poétique où l'auteur Atik Rahimi dénonce la condition des Afghanes sous l'emprise de l'homme, donc la libération de la femme par la culture islamique. Dans ce récit, le roman ne parle pas uniquement des femmes, mais de la guerre et de la religion islamique. Atik Rahimi, le romancier, construit un personnage féminin de la culture islamique qui est libéré et qui peut parler sans trop d'inquiétude du sexe, de l'infidélité de son mari et d'elle-même sans causer du tort à la culture islamique. En un court récit, il parle de la guerre, de la religion islamique et des femmes. Voilà, en gros, en termes de présentation, le récit Atik Rahimi, Sengesabo. Je vous invite à le lire et aussi à l'apprécier pour cette semaine. Et c'est ici que je mets fin à notre rubrique Le Livre de la Semaine. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre présentation du même genre.
Merci, Sengesabo, Pierre de Patience. Très beau roman d'Atik Rahimi. Que nous avions discuté pas mal de fois avec Robert Charles.
Oui, aussi d'Atik Rahimi de aussi manière générale, que ce soit Pierre Sandre ou Pierre Sandre.
Donc, des romans qui mettent en relief la culture musulmane et la représentation des femmes et la guerre qu'il y a aussi dans cette contrée. Et du Proche et du Moyen-Orient. Donc, c'est tout ce qui fait et la beauté de l'œuvre d'Atik Rahimi. Donc, c'est une sorte. Donc, ce sont des récits, hein, des récits proches de ce qu'on pourrait appeler le réalisme fantastique. Donc, qui. Tout proche et du roman aussi, ou encore des romans de Marie Ndiaye, où l'on voit
des personnages merveilleux défiler dans la quotidienne.
Dans la quotidienneté, tout à fait. Et aussi où l'on voit cette part de mémoire, et où l'on est en présence et de conscience humaine où il n'y a pas vraiment de personnage dans le sens traditionnel du roman balzacien, mais plutôt dans la lignée du roman de Flaubert, de Proust ou Joycien et Proustien et tout ça. Donc et un peu et dans le nouveau roman à la Rob Grier, Nathalie Sarrote, et où et ces écrivains-là, et India, et surtout dont on est en train de parler, que ce soit dans La Divine, et En Famille,
ou Trois Femmes Puissantes,
ou et il y a une sorte d'interpellation et du lecteur, parce qu'en lisant ces textes-là, il a comme l'impression qu'il est une part du récit, puisque ça parle de lui, donc de l'individu, et en même temps, ça parle de la société, des groupes et du monde. Donc, ce qui fait que ce sont des récits réalistes, mêlés à la sauce fantastique
Bien sûr, que ce soit chez Marie Ndiaye ou des personnages apparaissent dans le récit de manière merveilleuse, comme le mari du personnage principal.
Le mari de Nora.
Jacob. Trois femmes puissantes qui paraît au Sénégal comme ça, comme un éclair. Mm-hmm. Ou encore dans un roman d'Emmanuel Carrère, La Moustache. Et où le
ou l'adversaire aussi. L'adversaire, il y a, oui. il y a aussi cette apparition brusque, comme si ces personnages, c'est comme si, c'est ce que l'on appellerait une sorte de contrepoint temporel. Donc on n'est plus dans le temps et certaines fois le récit est coupé, le récit est principal est coupé et l'on voit se défiler tantôt à travers la tête du personnage en question, c'est dans le cas de Woody Descasses et dans le roman de Trois femmes puissantes, où l'on voit un Woody qui raconte à travers ses souvenirs l'histoire de sa femme Fanta. Et donc c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte de discontinuité temporelle et de contrepoint temporel où des histoires s'entremêlent. Il y a un arrêt et sur l'histoire avec des analepses
et
prolepses et tout ça. Donc on aura le temps de faire
bien sûr,
une émission.
Mais je voulais parler de ce merveilleux chez Emmanuel Carrère, surtout dans La Moustache, ce roman qu'il a publié aux éditions Gallimard, c'est un personnage qui se rase la moustache un jour et va demander à sa femme comment elle le voit. Alors là, la femme lui dit que tu n'as jamais eu de moustache. Et de là, il va vivre une histoire folle. Il va partir, laisser sa femme et aller et passer du temps en Chine et va rencontrer d'autres mondes et il y aura une apparition comme l'apparition du mari et de la fille de Nora dans Trois femmes puissantes, l'apparition de la femme du personnage de la moustache, subitement en Chine,
qu'il l'avait laissée.
Bien sûr, comme si de rien n'était, comme si elle a toujours été là, qui fait que ce réalisme merveilleux, surtout dans l'autofiction, parce que nous parlons d'autofiction, que ce soit chez Marie Ndiaye ou Emmanuel Carrère, il est question d'autofiction. Et le merveilleux a toujours sa place
dans
la littérature, et que ce soit chez Atik Raimi, on l'a dit tout à l'heure avec Mianne Pierre, ou Marie Ndiaye, Emmanuel Carrère et tous ces écrivains du XXe siècle qui nous donnent à lire une littérature merveilleuse.
Oui, ou donc ce qui est cette littérature qui est rangée dans la catégorie, dans ce qu'on appelle la modernité ou la post-modernité, puisqu'on est là en plein pied dans le nouveau roman, dans le sillage de Rob Grier, Butor, Sarraute, tout ça. Et c'est ce que Rob Grier, ce dont tu viens de parler là, Rob Grier, lui, il appelle ça le réel vérifiable, parce qu'il distingue un réel qui n'est pas celui de l'histoire, l'histoire avec un grand H, l'histoire universelle. Donc il y a un réel et qui n'est pas celui de l'histoire, mais celui de ce qu'on appelle la psyché, puisque ces romans-là sont très marqués par la psychologie. En ce sens, à tout instant, le réel échappe à la simple opposition entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Donc voilà d'où... Et l'importance ou encore et ce qui fait qu'on parle de réalisme et fantastique ou encore du réalisme merveilleux, un réalisme qui est dans la réalité vérifiable. Donc voilà, en termes de présentation, et la chronique de Myrline Pierre. Donc voilà. Donc merci à Myrline Pierre pour ce beau numéro de ta rubrique. Ce matin-là, je t'ai laissé partir sans un mot. J'ai choisi de rester invisible, de ne pas subir le fleurement de ton regard vide de nous, sur nous, un nous amer, défunt. Déjà, je comptais mes morts. Ce soir-là, quand les secondes se sont égrenées sous nos yeux écarquillés, j'ai pensé, tu es parti sans un regard. J'ai désiré le poids de ce regard, vide de moi, sur moi. Prier, supplier pour revoir son effleurement d'ombre sur un jour de lumière. Non pas cette lumière trouble, filtrée par la poussière des immeubles tombés sur les rêves des milliers de vies, mais limpide, comme illuminé de l'intérieur par d'autres rêves, d'autres possibles. Un regard vif comme le sang. Le sang. Je me suis détourné pour ne pas le voir courler de partout ou sécher sur la peau blanchie par la poussière des gravats, d'où ont surgi les miens comme de tombeaux ouverts. Le sang. J'ai suivi comme jamais auparavant sa coulée dans chacune de mes veines, la naissance de chaque goutte, à chaque serrement de cœur, à chaque pensée de toi. Tu sais, j'ai crié une fois. J'ai crié ton nom comme on parle à ses morts. Ceux qui sont chers, mais ne le savent plus peut-être. Ceux qu'on a laissé partir sans un mot d'amour au creux de l'oreille, sans l'émotion ultime d'un baiser. J'ai su plus tard, bien plus tard que tu étais vivant. C'est mensonge que de croire qu'une minute change tout. Pas en amour, la route sinueuse, empruntée par l'amour, détournée par la mort, se rattrape au carrefour. Elle retrouve son chemin, tel l'animal apprivoisé. Je te compte parmi mes morts. Chantal Kenol, texte titré ce matin-là, donc tiré dans le collectif Haïti parmi les vivants, un texte paru en coédition chez Actes Sud et Le Point en 2010. Voilà, donc une émission spéciale aujourd'hui dans le cadre des 6 années. Du séisme.
h 53 minutes, dans un crépuscule qui cherchait déjà ses couleurs de fin et de commencement. Port-au-Prince a été chevauché moins de 40 secondes par un de ses dieux, dont on dit qu'il épaisse de chair et de sang. Chevauché sauvagement avant de s'écrouler, cheveux hirsutes, yeux révulsés, jambes disloquées, sexe béant, exhibant ses entrailles de ferraille et de poussière, ses viscères et son sang. Livré, déshabillé, nu, Port-au-Prince n'était point obscène. Ce qui le fut, c'est sa mise à nu forcée. Ce qui fit obscène et le demeure, c'est le scandale de sa pauvreté. Le 12 janvier 2010 à 16h53, le temps s'est fracturé. Dans sa faille, il a scellé à jamais les secrets de notre ville engloutie, dans une partie de notre âme. Une âme qu'elle nous avait patiemment taillée à sa démesure. Dans sa faille, le temps a apporté notre enfance. Nous sommes désormais orphelins de 200 lieues et de 1000 mots. Les rues jouent à Colémaïa, la goût cachée avec nos souvenirs. Certaines façades sont des ombres et des fantômes y rôdent déjà que nous croyons toucher des yeux. Yannick Lahens, Sans faille, publié chez Sabine Respizer en 2010.
Le visage renversé, je cherche la face des hommes. Dans ce printemps coagulé de sang, palimpseste d'une saison avortée dans le banquet des ombres. J'ai le cœur qui saigne dans ma paume et le soleil est un vertige au flanc des femmes. De ce séisme à ma nécropole, j'ai la tête qui tourne comme une toupie folle, lance des vagues et l'étreinte des bras me livre comme un aveugle à l'abandon. Des gestes futiles rouillant le vin et le pollen des chrysanthèmes, la mort a des manières à elle seule, dont le cri seul sait le poids et la pesanteur. Est-elle vent de manège, l'écho de la douleur résonne en moi. Depuis, j'ai un fantôme dans la chambre qui surveille la lampe et ses errances, dans ce chaos miroitant de l'âme. Serais-je un jour, dans mes errements de poète pactisant avec la lumière, le nombre de cœurs oubliés sous les décombres? J'ai tes mains et ton odeur comme repère, car depuis ta blessure sur ma peau, je suis redevenu homme parmi les vivants et les morts. Pierre-Moïse Célestin, Le cœur sous les décombres, un recueil de poèmes, sans doute l'un des premiers recueils de poèmes sur le séisme, paru aux éditions Bas de Page en août 2010.
Oui, je la revois, elle, ma mère, au village. Parmi ces ombres que le soleil de midi des terres du pays de Bédéhen fait d'habitude coucher en rond à nos pieds, lui aurais-je murmuré encore. J'étais la première à l'avoir aperçue au bout de l'allée bordée de coquillages et de bougainvilliers aux pétales blancs menant à notre maison. Une fine silhouette qui augmentait peu à peu de volume jusqu'à devenir une forme humaine, jusqu'à ne plus me paraître un point flottant. Une fois passé se tournant ou dans un jardinet, ma grand-mère en vain piquait des légumes. Elle arrivait d'un pas saccadé, mal habile, mais donnait le change, comme si elle voulait nous faire croire que de sa fugue, elle ne nous était pas revenue vaincue et complètement désarticulée. Elle avait le sourire aux lèvres et les dents blanches. Pourtant, il lui en manquait une molaire, à la vue de laquelle je m'étais dit que c'était peut-être tout ce qu'elle avait perdu en chemin, bien que je ne fusse pas tout à fait dupe. Je ne lui rendis même pas son sourire. Et faut-il le jurer, ma froideur à son égard n'avait rien à voir avec de la méchanceté. Loin de là, vu que cela ne valait pas la peine, pensais-je, de tenir rigueur à une femme qui s'avance vers autrui sur le fond d'une telle nonchalance, d'une telle tristesse. J'étais, ce jour-là, debout au seuil de la cuisine, vêtu seulement d'une petite culotte élimée, dont l'élastique lâchait et le fond très sale, à force de m'asseoir dans la terre. Marvin Victor, Corps mêlé, roman paru chez Gallimard en 2011.
La plupart des gens de Port-au-Prince sont dormis cette nuit-là à la Belle Étoile. Je crois que c'est la première fois qu'une telle chose se produit ici. Le dernier tremblement de terre d'une pareille ampleur doit bien avoir eu lieu il y a environ 200 ans. La nuit précédente était assez froide. Celle-là est chaude et étoilée. Couchés par terre, nous ressentons chaque tressaillement du sol au plus profond de soi. On fait corps avec la terre. Je pisse dans les bois. Mes jambes se mettent à trembler. J'ai l'impression que c'est la terre qui tremble. Je me promène un moment dans le jardin, tout étonné de constater que les fleurs les plus fragiles se balancent encore au bout de leurs tiges. Le séisme s'est donc attaqué au dur, au solide, à tout ce qui pouvait lui résister. Le béton est tombé. La fleur a survécu. Je n'avais pas dormi à la Belle Étoile depuis mon enfance. J'avais oublié le parfum des fleurs dans la nuit tropicale. Tout bouge autour de moi, Daniela Ferrière.
La porte s'est péniblement ouverte. La terre marche au pas d'un militaire. Et la mort, à son tour, se donne rendez-vous sur des cadavres. Nos mouchoirs trempés de larmes et de sang ne peuvent plus se tenir sous leur forme. Les chiens, quant à eux, passent à l'action. Je n'ai plus envie de rire. Le soleil avait l'air inquiet. La mort est crue, mâchée. La terre vient de mettre au monde un nouveau-né, un séisme. Le pays se transforme en un véritable chantier de mort quand les montagnes s'embrassent à tuer les rivières. Ici, c'est l'état d'urgence. La ville avait oublié son chemin et des passants grelottant sur des capots de voitures sans vie. J'ai trop d'images dans ma tête qui m'empêchent de parler à l'encre et à mon papier. Mais avant que la porte ne se referme, il y a un pas qui ne revient pas à la maison. Yves Romel Toussaint, Tremblement de cœur, un recueil de poèmes publié à quatre mains de plume avec Denise Bernard en 2012, en novembre 2012, chez Le Vert Galant Éditeur.
Non, ils n'ont pas voulu croire. Les démolisseurs, les bulldozers, les fonctionnaires improvisés du portail Saint-Joseph armés de marteaux, de scie à main, de burins. Non, ils n'ont pas voulu. Ce sont des briques, de la boue, du mortier, du ciment à bon marché, disait-il. Non, pas voulu croire. Et ils ont détruit tout cela. Tout avait été déjà signé, tout payé, en des mots muets, sourds, incompréhensibles, qui se bousculaient dans un morceau de papier. Président, antérieur, tremblement, contrat, délai, démolition. Tout payé, bien reçu. Mais que diable voulez-vous? Ils n'ont pas voulu. La maison n'était pas faite de briques, de boue, de mortier, du ciment à bon marché acheté sur la frontière dominicaine. Au 106 rue de l'Enterrement habitaient nos souvenirs, notre mémoire, nos peines et nos amours perdus. Nous avions toujours habité nos murs comme les socles de nos souvenirs. Ils transportaient en eux nos rires, nos silences et nos solitudes. Que voulez-vous qu'on y fasse? Quand mes sœurs et moi grandissions tous les ans, mon père nous mettait debout et marquait avec un bout de charbon dans le mur de la cour arrière nos tailles respectives par des traits horizontaux. Tous les ans, cela faisait des lignes à n'en plus finir. Et nous avions tous été heureux, 5 ans plus tard, de voir nos têtes accrochées à ces briques, les souvenirs arrêtés, comme si le temps était devenu immobile, intemporel. Nous revivions nos vies. Réinventions nos souvenirs et nos jeux d'enfants. Ici, j'avais 4 ans, et là 5, là-bas 6 ou 7. Nous revivions nos vies faites de morceaux de charbon, comme pour nous convaincre que jamais la nuit ne tombera sur notre enfance. C'était notre façon à nous d'arrêter le temps qui passe, de prendre pied sur le territoire enchanté de notre enfance. Mais les gens n'ont pas voulu le croire. Ce sont des briques, de la boue, du mortier, du ciment à bon marché, et les bulldozers, les marteaux, les burins ont frappé plus fort. Quand les tontons Macoute étaient venus chercher mon père et qu'ils le transportaient à cette grande prison à Fort Dimanche, ma mère ne put étouffer sa rage et son chagrin. Elle prit le morceau de charbon et marqua dans sa chambre, en face du lit des barres verticales, chaque jour que mon père passait à la prison. Un jour, une barre. Non pas pour compter les jours, mais une barre verticale pour retenir mon père debout, parmi les prisonniers assassinés toutes les heures, sous la commande du grand chef. Le grand chef, lui non plus, ne voulait pas croire. Il fallait tout nettoyer, faire de l'espace, prendre le large. Il fallait du sang, emprisonner les gens capables d'imiter le pantonyme du grand chef. Et mon père restait debout dans la chambre à parler à ma mère, et cela l'a retenu en vie. À son retour de prison, il n'a pas voulu effacer les barres verticales dans la chambre. Nous les regardions ensemble. C'était notre seul souvenir du grand chef, des tontons Macoute, des hommes sveltes à lunettes noires, des heures passées cloîtrées dans la maison à attendre la fin d'un quelconque couvre-feu ou d'un meurtre annoncé. Mais ils n'ont pas voulu le croire, les démolisseurs. Ce sont des briques, de la boue, et ils ont détruit tout cela. De la poussière partout, partout de la poussière, des fers rouillés, des vitres brisées. Ils ont tout détruit jusqu'à l'enseigne. 106, rue de l'Enterrement. Un contrat à la main avec des mots qui disent l'indécision d'aller vivre nulle part, dans le vide, le néant. Tout payé, bien reçu. Et nous voilà dévidés de nos souvenirs, laissant derrière nous les briques cassées de notre mémoire. La rue de l'Enterrement est devenue poussière, la rue où l'on enterre les souvenirs.
Yeah.
Temps 6, rue de l'Enterrement, Weber Charles, texte paru dans le collectif des mots et des riches, et des, pas des riches, et des rues chez Legs Éditions en 2014.
Il était une fois une rue, la rue des morts. J'habite cette rue comme elle m'habite depuis des ans. Elle m'a vu grandir, comme je l'ai vu se construire et se détruire par cette rangée de grandes catastrophes ou par ces choix qui nous dépassent. Là, j'ai appris à comprendre plein de choses, surtout celles qui surpassaient la compréhension des uns et des autres. Aujourd'hui, la rue des morts n'existe plus, tout comme j'ai le sentiment d'une n'avoir jamais existé. Pendant longtemps, j'ai appris à vivre avec la peur à la rue des morts. Je pense encore à la rue des libraires. Petite, je faisais le va-et-vient entre ces deux rues, tantôt pour aller jouer avec ma copine, Sandra, qui habitait la maison d'en face, tantôt pour aller m'acheter des sucreries dans la boutique de Grande. La rue des libraires est cette rue où les bouquinistes vendent des livres à bon marché. On peut en acheter selon ses moyens et parfois à crédit, selon que l'on soit très connu ou respecté du vendeur. À présent, tout n'est que du passé, fumée, souvenirs, réminiscences et tout part dans le vent. Des cadavres, des corbillards.
Comme dans la vie, tout passe. À la rue de l'enterrement comme partout, on promène des ombres et on répand des cendres. Ce lundi matin, je ne sais plus qui j'allais rencontrer au coin de la rue. Au loin, j'aperçois le balancement de ses épaules, les seins hautains comme sur une proue, la pelle de son corsage jaune.
Quinze jours que j'attends encore que tes pas retrouvent les miens, que ton visage saupoudré de gris efface les nuits blanches qui ont suivi ton départ. Que me reste-t-il, hormis cette poignée de mots que tu ne liras sans doute jamais? Je fais bonne figure, ou du moins j'y sais, sans plus. Le temps fuit, comme tout ici à Port-au-Prince. Je me revois reprenant le chemin que tu as dû emprunter ce jour-là. Je t'ai cherché partout, me disant que tu devais être parmi cette masse d'abrutis, déambulant sans but et sans vie dans les rues de la capitale. Seule la lassitude aurait pu t'empêcher de prendre le chemin qui aurait dû te mener à moi, à nous. Je me suis répété cette phrase des milliers de fois, avec plus ou moins de foi, plus ou moins de conviction. Mais la foi et la conviction ont fait place à l'évidence des tonnes de gravats meurtriers, à la peur et au désarroi. 15 jours et la famille veut que l'on poursuive les recherches. Je suis contre. J'ai peur de découvrir la souffrance que tu as endurée, de ne pas reconnaître ton visage meurtri. Ils disent qu'il y a peut-être une chance que tu sois encore en vie, quelque part sous les décombres. Moi, je te sais parti. Depuis le premier jour où j'ai marché en vain jusqu'à l'épuisement attendant que tes pas rejoignent les miens. 15 jours déjà que ma tête vide de sens se crée un chemin sur les trottoirs encombrés. J'en ai assez de ces regards qui fuient, qui se perdent, puis se fixent sur des silences en attente de nouveaux départs. Je prie que ces regards se taisent. Il me laisse à peine seul. Sarah Berouette, texte 15 jours, publié dans le collectif Haïti parmi les vivants, paru chez Actes Sud et Le Point en 2010. Voilà, et mesdames, messieurs, et nous vous remercions d'avoir été des nôtres, puisque Livre Neuf touche à sa fin. Donc nous avions et nous étions heureux et de vous apporter cette émission spéciale dans le cadre des 6 années du tremblement de terre de 2010. Donc avec les textes et les auteurs, les textes nous ont parlé de cet événement et si triste et si douloureux, et en fait un événement si triste et si douloureux, et que le peuple haïtien ne peut pas oublier 6 années après. Donc la littérature qui a cette possibilité, qui a ce pouvoir de saisir le monde, ce pouvoir de traduire la conscience humaine. Donc c'est ce que nous avions fait aujourd'hui à travers ces textes-là qui ont parlé de cet événement. Donc je vous remercie encore une fois d'avoir été des nôtres. Toute l'équipe vous remercie, Weber, Charles, Myrline Pierre vous remercie. Weber.
Et merci à vous tous et à vous toutes. Ça a été un plaisir de vous lire ces livres, de laisser parler les livres, puisque vous le savez, l'auteur, et nous sommes à un niveau où l'auteur est donc partout. Alors que l'auteur, c'est un personnage moderne, il faut laisser parler les livres. Les livres peuvent vivre sans leurs auteurs. Voilà.
Yerline.
Ça a été un plaisir pour moi de lire plusieurs extraits. Ces extraits me rappellent tellement des moments difficiles. Me rappellent aussi le 12 janvier 2010.
Voilà, et Livre Neuf est une émission proposée par la radio Magique Neuf en partenariat avec l'association Legs et Littérature Allel. Donc, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre édition du genre. N'oubliez pas que tout le mois de janvier, on célèbre les 2 années de cette émission. Livre Neuf a 2 ans. Donc, 5 janvier 2014. 5 janvier 2016, 10 janvier 2016, 17 janvier 2016, 24 janvier 2016, 31 janvier 2016. Pourquoi pas toute l'année? Donc, mais c'est le mois de janvier qui nous est consacré. Allez, portez-vous bien. Rendez-vous à dimanche prochain. Au revoir.
Hi, I'm Jamie Foxx. 25 years ago, Quincy Jones gathered us to millions around the world as we ask you to please do more than just watch. Reach deep into your hearts and give anything you can as we have for Haiti. Sa passe, na boule. Whatever you have, no matter how big or how small, it all counts. Thank you so much and enjoy the video.
Choice we're making, we're saving cries for help will not be in vain.
We can't let them suffer. No, we cannot turn away.
Right now, they need our help.
Vous êtes branché littérature? L'Aigle Édition met à votre disposition un éventail de livres de tout genre pour vous aider à affiner votre goût littéraire. Poésie, romans, nouvelles, essais. Les livres de L'Aigle Édition sont disponibles aux deux librairies La Pléiade, à Bois-Patate et à Pétionville, à Festival Arts et en son local au numéro 26 à Delma 8. L'Aigle Édition, littérature, culture, patrimoine.